Je suis forcé à faire la présentation en anglais alors que je voulais la faire en français. De toutes les façons, je vais essayer de communiquer ce que je pense est essentiel. Juste une question comme introduction. Si, comme théologien et éducateur, nous devons rencontrer et aussi intégrer la réalité africaine à travers ce que nous pouvons dire, la théologie africaine, alors quelles seraient alors les normes, l'autorité, le contenu, les méthodes et le sujet de cette théologie. Brièvement, quels seraient les critères de cette théologie? Ça, c'est la préoccupation majeure de ma présentation. Et nous allons présenter cela en trois points. Le premier point, j'aimerais d'abord partager avec vous ce que je pense avoir eu cet esprit de recherche, de questionnement, la pertinence en Afrique, en disant dans la fourchette de la le christianisme africain. Le deuxième point, c'est la présentation, une tentative de répondre aux réalités culturelles de l'Afrique. Et mon dernier point sera comment, alors nous allons comprendre notre tâche et répondre aux réalités culturelles africaines. La première partie, c'est brève historique de cette sensibilisation de répondre aux réalités africaines et répondre à partir des réalités africaines vers la théologie. La conscientisation de ceci, nous pouvons le voir à travers l'histoire. J'aimerais partager avec vous, donc, ces mots de Paul. Lorsqu'on essaie alors de faire le traquage à travers de ce mouvement théologique de l'Afrique, ça, il est devenu apparent que la conversation émergente est bien articulée de ces deux événements des années 1960. Dans l'église francophone de l'Afrique, concernant, alors dans la vie intellectuelle africaine, et l'autre des protestants africains et fonctionnant d'une indigénisation de la chrétienté africaine. Le tout identifiant une conscientisation qui date d'un siècle. Et alors, donc, dans les années, qui avait commencé dans les années 50. La première sensibilisation qu'on a eue, c'est Harry qui avait dit comme que l'objectif, l'indigénisation de la foi africaine sur le continent. Alors, la préoccupation, c'est ce qui a donné naissance au mouvement africain au début de cette période. Ça avait commencé comme une libéralisation du colonialisme et aussi la libération politique. Et vu le contexte social du milieu du siècle parlant, c'est une réflexion à travers l'Église africaine qui a produit l'idée qui sous-tend la nécessité de la chrétienté africaine d'avoir cette couleur africaine. Il y a deux réunions importantes dans l'Église catholique. La première, alors dans les années 50, et l'autre en 59. Alors la voie publique favorisant l'africanisation de la foi chrétienne avait été publiée dans les années à la réunion de 1956, qu'on trouve dans le livre Les prêtres noirs s'interrogent. Il faut traduire. Donc, les prêtres noirs s'interrogent. Et cela, c'est dans les années 67, au mois de janvier. Dans les années 1960, la réunion des étudiants à la faculté de théologie de Kinshasa, il y a eu un débat public entre les prêtres africains nommés Tharcisse Tshibango et les professeurs Alfred Van Hist, le doyen de la faculté qui était invité à cette réunion. Alors, du côté de ceux qui protestaient, on avait bien noté la vision d'avoir une église africaine indigène et aussi avoir une bonne appréciation de la culture africaine. En 1926, la conférence tenue à Belgique, on a parler de l'importance de former beaucoup des penseurs africains, le clergé africain. Quelque chose avait été ajouté après la publication de 1956 de M. Ben Sinclair sous le titre Le ministère africain en Afrique de ce travail. Il y a eu tout un chapitre concernant la théologie africaine en Afrique. Qu'il fallait prendre en compte les réalités africaines était vu comme une nécessité d'avoir une chrétienté robuste. De ce débat et de la tentative, s'est épanoui plusieurs orientations et approches qui avaient été proposées. Et alors là, donc la préoccupation était suscitée. Dans les années 60 et 70, beaucoup d'articles avaient été publiés comme un résultat de l'augmentation de la théologie occidentale en Afrique. Sur cette liste, nous pouvons pour juste lister certaines publications, Harris Sawar de la Sierra Leone qui avait publié un article répondant au problème de Ben Sinclair. Nous avons aussi un autre qui a publié un livre, Un visage africain du christianisme. Donc, le visage africain de l'église chrétienne. Et nous avons aussi un autre du Nigeria qui y a publié en 65 un livre à travers une église indigène, John Mbiti. Il a publié plusieurs livres. Et laissez-moi juste vous donner les titres de deux. Et le Nouveau Testament, l'écatologie de l'Église africaine. Nous avons un livre collectif qui a été publié dans les années 69 après la conférence organisée par le Conseil africain. Le Conseil africain qui a été fondée en 63. Cette conférence était organisée à Ibadan. Le livre, La révélation des croyances africaines, et par ces deux auteurs. Ce livre a été traduit en France sous le titre Pour une théologie africaine. S'il faut traduire littéralement, donc c'est pour une théologie africaine, et il faut prendre en compte le contexte culturel africain, alors l'eschatologie. Concernant l'évangélisation, ils ont publié un autre livre comme objectif, une fois de plus, ce qu'il avait trouvé comme un schisme, surtout du côté des protestants, en rapport avec le SCC. Il y a eu vraiment des critiques acerbes pour travailler avec l'eschatologie africaine, selon M. John Mbiti. Bidiako, avec la publication de la dissertation de son doctorat, est une des voix qui ont fait la promotion d'une théologie africaine, de cette tendance de la théologie africaine. D'autres voix peuvent être aussi référencées, pensant de la théologie africaine, la façon dont il faut faire une théologie d'une façon qui est pertinente. Nous pouvons aussi lister M. Isaac Zokwe, le président du Conseil africain en Afrique de l'Ouest. Nous pouvons aussi parler de Bernabé Assokoto. La conception, l'approche de la théologie africaine a suivi deux étapes. Après la réjection de l'approche missionnaire de M. Taboula Raza. La première étape, après l'approche de M. Taboula Raza, c'était l'étape de l'adaptation. L'adaptation a été appelée l'africanisation par les catholiques et l'indigénisation par les protestants. Dans l'entretemps, on avait observé que l'adaptation, l'approche de l'adaptation ne permet pas réellement de faire la théologie dans toute la culture africaine. La réflexion, alors, s'est démarquée dans une autre approche. Cette approche était appelée L'inculturation des catholiques, la contextualisation par les protestants. Ce ne sont pas les mêmes concepts. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que beaucoup des gens du côté des protestants, parlant de la contextualisation, le contenu, c'est que les catholiques appellent l'acculturation. Au niveau de la terminologie, ne fait pas une grande différence. D'autre part, quelque chose que nous devons aussi considérer à une terminologie particulière, décrire ce qu'on devait entreprendre. Là, c'est vrai, une histoire brève de la théologie africaine. Maintenant, j'aimerais donner deux exemples des tentatives d'avoir une théologie en Afrique. Mais je pense que je ne serai pas capable de présenter les deux. Je vais tout simplement partager l'une avec vous. Les deux tentatives viennent de M. John Beattie, qui avait proposé l'eschatologie pour l'Afrique, et la deuxième venant de M. Roger Nguédi, qui avait proposé une eschatologie pertinente pour le contexte africain. Alors laissez-moi parler de M. John Beattie. Alors ce travail bien extensif de M. John Beattie concernant la religion africaine et la théologie africaine lui a donné le titre du père de la théologie africaine. Il a fait un travail plus étendu et il a fait une tentative de faire cette doctrine considérant l'Afrique. Dans sa dissertation, alors l'eschatologie avec contexte africain. Entre la théologie du Nouveau Testament et le concept traditionnel africain. Il a écrit un chapitre sur un livre collectif, La révélation des croyances africaines. Ce chapitre a comme titre Eschatologie. Il a basé ses hypothèses sur l'eschatologie africaine sur trois points. Premièrement, la conception africaine du temps. L'eschatologie, les idées eschatologiques trouvées dans le monde de la pensée africaine. Numéro 3, cela vient d'une étude du Nouveau Testament, l'eschatologie du Nouveau Testament. Alors là, il a sa déclaration qui résume sa proposition. Premièrement, pour John Beattie, les Africains n'ont pas alors cette dimension du temps. Et l'histoire va en arrière. Leur perception du temps, c'est comme un cercle, mais ce n'est pas une vue linéaire. Cette conception le rend difficile pour eux, selon Beattie, de planifier pour le progrès et discuter concernant donc les formes. Parce que, à cause de cela, les futuristes et le temps linéaire enseigné par les missionnaires occidentaux, ne pouvait pas être compris. Je pense qu'il avait étudié ce sujet ici au Kenya, des groupes de la tribu Akamba. Alors, le retour de Jésus, donc c'est pas vraiment pertinent pour eux. C'est pourquoi ils ont commencé d'avoir fondé une église de l'église africaine de Messie qui trouve des réponses à leurs problèmes. Pourquoi ces églises ont vraiment proliféré en Afrique? Pour Mbiti, il est en besoin d'avoir une discussion eschatologique pour l'Afrique. Les Africains croient à la vie après la mort. Et alors aussi une approche, le fait qu'on est vraiment très proche des morts après la mort. L'année qui suit est composée des morts qui ont un esprit immortel pour la population, pour les gens. C'est ce qu'on appelle Aïmou. Ce sont les ancêtres qui sont devenus des esprits. C'est le monde des ancêtres qui sont devenus des esprits. Alors, ils perdent leur immortalité avec la mort de la dernière personne qui les connaît par le nom. La population les membres de ce village sont considérés comme des protecteurs de la communauté parce que selon la hiérarchie ontologique qui caractérise la culture africaine, ils sont supérieurs aux êtres humains. Il n'y a pas de différence entre la vie après la mort et la vie sur Terre. Il n'y a pas de jugement de séparer le bien, les gens qui sont bien et les mauvais. Il n'y a pas d'espoir et il n'y a pas une théologie dans l'eschatologie africaine. Il n'y a pas de résurrection. Et l'idée africaine de la réincarnation n'est pas donc le retour à la vie d'une personne. Le fait que l'enfant peut porter les caractères des ancêtres. Ces deux premiers points présentent le contexte culturel de l'Afrique, plus précisément de la tribu Akamba au Kenya. Et numéro 3, ça c'est donc c'est sa vision de l'eschatologie africaine. C'est pas seulement la conception du temps linéaire dans la Bible. Nous pouvons aussi voir la conception du temps qui est circulaire. Et alors, l'eschatologie africaine n'est pas dépendante de cette vision linéaire. Il y a deux dimensions. La première, donc, c'est la dimension horizontale basée sur le temps. Deuxième, la dimension verticale qui est totalement indépendante du temps. La dimension horizontale est influencée par la vision judaïque, qui donc ce qui est déjà et pas encore. Malgré cela, Les deux pôles sont de la chrétienté. L'eschatologie du Nouveau Testament est un système christique. Le croyant a tout en Christ pour le moment et sur le moment. Et il a alors cela, donc, sont intégrés en lui le ciel et la terre, le monde présent et le monde à venir. Donc, l'importance est sur le présent et ce qui n'est pas encore reconnu est vraiment alors suppressé, donc presque sous pression annihilée. Cela est appuyé, selon M. Mbiti, par l'eschatologie verticale, se basant sur son interprétation symbolique du Nouveau Testament. Nous avons l'enfer, le feu, le trésor au ciel et le pays du repos. Alors donc boire, manger, les punitions et le ciel. Et là, selon lui, ce sont les images utilisées pour décrire seulement la communion de Dieu et la séparation de Dieu. Et alors, ce n'est pas de l'utopie que le fait d'être ici et maintenant. Il n'y a pas de retour du Christ, deuxième retour du Christ, et il n'y a pas de résurrection du corps. On aura alors une résurrection collective que Mbiti définit comme la récapitulation de tout en Dieu au final. En conclusion, pour John Beattie, l'eschatologie qui est pertinente pour l'Afrique, c'est celui qui parle de l'appropriation présente de tout ce que nous avons en Christ. Alors, sans quoi nous allons maintenir les Africains à créer leur propre paradis et aussi créer leur propre Messie sur Terre. Nous devons mettre en exergue surtout le présent, mais pas le futur. Alors, mettre beaucoup d'importance sur le futur, alors ça donne une focalisation sur le ciel et ils oublient ce qui est sur terre. Ça, c'est une proposition de la théologie pour répondre aux réalités sociaux de l'Afrique. Je ne veux pas faire mes propres commentaires ou faire une révision. Bien sûr, je l'ai fait devant des très grands théologiens. Je vous laisse la tâche de cette révision. Nous pouvons le faire en conversation à la fin. Quelle est notre tâche? Répondre aux réalités culturelles africaines. Là, j'aimerais utiliser le passage d'Ézéchiel 36, de 1 à 14. De là, j'aimerais tirer un paradigme pour notre tâche théologique. Ça, c'est la vision, alors, des eaux sèches, des eaux secs. Je présume que tous nous avons lu, nous connaissons ce passage et que nous sommes familiers à ce passage. La première observation concernant ce passage, premièrement, nous voyons que Dieu a envoyé ses prophètes. Il a envoyé ses prophètes pour parler à son peuple. En les envoyant, il met beaucoup d'importance sur certains points. Premièrement, il dit à Ézéchiel, je t'envoie aux enfants d'Israël. Deuxième point. Toi, fils d'homme, écoute à ce que je te dis. Il ne faut pas être rebelle. Ne sois pas voir l'esprit rebelle. Ne sois pas donc comme cette famille des rebelles. Reçois dans ton cœur. Alors écoute avec tes oreilles toutes les paroles que je vais te donner. Numéro 3. Dieu, le Seigneur a demandé à Ézéchiel, ouvre ta bouche et mange, avale ce que je vais te dire. Donc, avale ce livre. Et après ça, Dieu l'a... Il est allé à une place, il a rencontré la gloire du Seigneur. Et là, ce sont des éléments que Dieu a donné beaucoup d'importance quand il a envoyé ses prophètes. En l'envoyant, il a dit, mon désir n'est pas que les mauvais meurent. J'aimerais qu'il change pour qu'il puisse continuer à vivre. Et donc, mon appel, c'est qu'il puisse revenir à moi, qu'il puisse retourner de leur mauvais chemin. Et alors, Dieu avait promis la restauration à son peuple. Son peuple qui était en exil, souffrant des situations différentes. Alors, c'est de là que vient la vision des eaux secs. Observons cette vision, nous voyons que c'est une idée très forte pour exprimer La promesse, les promesses de Dieu pour la restauration de son peuple. Et cela, cela se fera à travers sa puissance. Et aussi, la restauration à la vie est placée à la fin de l'action, à la fin de l'acte du professeur, de la prophétie du prophète. Nous voyons deux étapes dans le passage. La première partie décrit l'image. L'image de la vision. La deuxième étape donne des explications de la vision. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire pour comprendre alors les phrases de ce passage. Ce que j'aimerais dire de ce passage, c'est une observation alarmante. La vie est absente comme une conséquence de la démarcation de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire la vie sera restaurée uniquement après le retour de la gloire de Dieu. Le prophète lance un défi. Le défi du prophète. Alors, le défi au prophète est celui-ci. C'est de croire à ce que Dieu a dit. C'est croire aussi à ce que Dieu dit qu'il peut faire. Il ne faut pas être de l'esprit rébellieux. Il faut croire à la parole de Dieu, au pouvoir de Dieu et obéir à Dieu. Le mandat du prophète, c'est de parler, se basant sur ce qu'il reçoit de Dieu. Et de là, je tire ce qu'on appelle cette théologie prophétique. La théologie prophétique, c'est l'idée que j'essaie de tirer de ce passage. Premièrement, alors, la première obligation, c'est de voir. Deuxièmement, de noter. Noter, je ne sais pas quel est le mot le plus approprié. Alors, des fois, j'ai une certaine confusion sur ces deux mots. Il faut d'abord voir. Deuxièmement, de noter. Trois, écouter. Il faut écouter. Quatre, il faut croire. Il faut croire et pratiquer. Et cinq, et parler. Expliquer cela, je peux dire ceci. Voir, c'est être conscient du contexte, être conscient de notre environnement. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Alors, qui sont ce peuple, cette population, ces gens? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire que cela vient de Dieu? Et même si ces gens, même s'ils ne sont pas chrétiens, parce que dans chaque culture, nous pouvons voir, nous pouvons donc voir les marques, donc les empreintes de Dieu. Nous devons observer attentivement. Et maintenant, nous devons écouter. Alors, c'est quoi nous écoutons? C'est la parole de Dieu. Nous devons écouter attentivement à ce que la parole de Dieu est en train de stipuler. Cela veut dire, nous n'avons pas une solution personnelle en face de la situation que nous voyons et la situation que nous connaissons. La parole de Dieu. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous devons y croire. Nous ne faisons pas, c'est pas une étude intellectuelle de la parole de Dieu. Nous devons nous impliquer toute notre existence dans la parole de Dieu. Et alors, vivre la parole de Dieu, et nous pouvons être qualifiés à parler d'une façon pertinente à notre peuple. Et ceci ramènera la restauration. En résumé de notre tâche, nous devons connaître notre réalité, la réalité de notre peuple. Alors, c'est être passionné en Dieu. Alors, la main de Dieu est sur moi. Alors, nous devons faire une étude bien logique et approfondie des Écritures. Deux fois, les gens vont dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous étudiez l'hébreu, le grec, c'est une perte inutile de temps, parce que vous n'allez pas utiliser le grec, l'hébreu dans l'église pour répondre aux situations. Je vois cela. Je vois cela comme une démarcation, un schisme. Si nous devons apprendre, alors la langue originelle et être capable d'étudier la parole de Dieu d'une façon approfondie et l'exposer fidèlement. Autant aller dans les universités du monde apprendre la psychologie et tout cela. Alors donc étudier, assister les gens en étudiant l'anthropologie. Mais la tâche essentielle du théologien, c'est répondre aux situations découlant de la parole de Dieu. Nous devons donc apprendre cela profondément. Nous n'avons pas encore étudié suffisamment la parole de Dieu en Afrique. Et si nous aimerions aussi réagir, répondre à nos réalités socioculturelles, c'est en apprenant profondément la parole de Dieu et la présenter, l'exposer. Et nous devons prendre avec nous ce que nous en tirons, donc formuler ça différemment. La parole de Dieu doit devenir la parole de Dieu doit être la nourriture qui nourrit notre vie. Nous pouvons l'appeler. Elle peut nous donner de l'énergie et puis elle peut nous donner sa forme. Enfin, il faut parler selon la langue de la réalité culturelle de votre peuple. Le problème de la langue est vraiment primordial. Je dis aux étudiants, si vous voulez être vraiment nécessaire, pertinent, avoir un impact sur votre peuple, vous devez commencer à évangéliser, parler dans votre langue, dans votre dialecte maternel. Ceci va vous amener à ne pas juste verser sur les gens ce que vous avez mémorisé dans les écoles théologiques. Vous allez leur parler d'une façon pertinente. La langue, ce n'est pas tout simplement des mots ou des phrases. La langue, c'est aussi toutes les catégories, les différentes façons que nous utilisons. Nous avons des idiomes, nos propres façons de parler, de communiquer. Nous devons être conscients de tout cela. Nous avons des symboles. Nous avons des symboles. Nous avons beaucoup de choses dans notre culture qui peuvent nous permettre de parler à notre peuple d'une façon pertinente, sans quoi nous allons leur parler, mais ils ne vont rien comprendre. Donc, en conclusion, nous aurons une église transformative, transformée, et donc prêt pour le travail de Dieu, transformer notre société. Encore une minute. Une minute. C'est une minute ou d'une heure. Alors laisse-moi donc parler de la conclusion. J'ai listé huit domaines où nous devons travailler, répondant aux réalités socioculturelles. Comme éducateur, quel devrait être notre rôle? Quel genre de théologie enseigner que nos étudiants puissent aussi enseigner à leur communauté? C'est pourquoi je demande cette grille d'évaluation doit être comme ceci. Est-ce que cette théologie rend Donc, des Africains qui sont donc en contre-courant du Christ. Alors, de la parole inspirée de Dieu, pour que, en recevant le Seigneur, ça va assister la restauration de leur situation socioculturelle et devenir des agents de la restauration dans leur propre contexte socioculturel. Merci. Je ne suis pas sûr de l'exemple de Mbidi comme un mauvais exemple. Je pense que je l'ai choisi intentionnellement. Alors vous allez expliquer. Alors ça, c'est mon très cher ami. Alors, si vous lisez cela, donc le texte qu'il a soumis, alors qu'est-ce que vous allez dire, répondre aux réalités sociales? Si les théologiens, alors quelles devraient être les normes, le contexte, les méthodes et les sujets? J'aimerais que vous puissiez prendre 5 minutes. Et parler les uns aux autres et répondre. Alors, quelles seraient les normes, l'autorité, le contexte que vous trouvez dans vos livres, les méthodes et les sujets de cette théologie? Ceci va nous permettre, parce que nous avons beaucoup parlé de la théologie africaine, contextualiser. Alors, ce sont des thème, parce que nous sommes en train de suivre la vision d'être baptiste, d'être connecté aux églises locaux. Ça a été une longue journée, nous connecter à l'église locale et faire cela d'une façon que nous puissions avoir une vie, une voix africaine. Qu'est-ce que cela signifie en termes d'autorité, contenu, les éléments, pareil. Nous allons faire cela pendant 5 minutes et je vais vous donner donc des instructions.
J'ai vraiment aimé ça. Cette journée, nous avons discuté.
Je voudrais dire, en donnant l'exemple de John Beatty, que c'est ma stratégie de nous défier. Parce que quand nous disons qu'on ne veut pas faire ceci et cela, il y a des gens qui sont en train de le faire. Et ils sont en train de le faire avec leur propre norme, avec leur propre méthode. Ils sont en train de le faire de leur propre moyen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour mon propre exemple, j'ai fait les études théologiques. Quand j'ai lu, je me suis dit, bon, ça, je dois étudier, ça, je dois apprendre. C'est ce qui m'a poussé donc à apprendre John Beatty et sa théologie, surtout le présent et le passé dans son eschatologie. Ça, c'est ma manière de nous défier. Dire que nous avons besoin de travailler. Si nous ne voulons pas faire, les autres vont le faire. Et ils vont le faire selon leur fondation. Je savais que tu allais dire ça. C'est pourquoi je voulais que tu puisses parler. Discutez parmi vous, partagez parmi vous. Merci.